RRB, pour être les premiers et les mieux informés.
Excellent début d'après-midi, la suite d'Infomag avec le magazine Citoyen. On retrouve Nicolas Legrand et ses invités.
Le magazine Citoyen avec la province Sud, une province citoyenne.
La province Sud, agir pour l'avenir.
Et ce midi, dans ce magazine citoyen, nous nous intéressons au désamiantage et à la déconstruction après les destructions d'entreprises et de bâtiments publics lors des émeutes de l'an dernier. Comment se passe la déconstruction? Nous sommes en compagnie de Franck Olivier, directeur de l'entreprise Démolition Désamiantage NC, de Patrick Bélanguez du cluster Acotrade et de Laurent Jandot, directeur du groupe Jandot. Bonjour à tous les trois.
Bonjour Nicolas. Bonjour.
Merci d'être avec nous ce midi. Peut-être commencer par se tourner vers le chef d'entreprise, Laurent Jandot. Vous avez été particulièrement touché lors des émeutes de l'année dernière, on s'en souvient. Est-ce qu'on peut rappeler le nombre de bâtiments qui ont été détruits dans votre groupe par ces violences insurrectionnelles?
Oui, on a eu deux concessions majeures, une carrosserie ainsi que des immeubles de bureaux également, dans des structures qui ne sont pas forcément liées à l'automobile. Donc, des destructions importantes, effectivement.
Ça représente donc combien, par exemple, en mètres carrés? Je ne sais pas si on peut l'exprimer ainsi ou si c'est intéressant de l'exprimer ainsi.
Je ne saurais pas vous le dire. Je n'ai pas fait le total.
Okay. Et à partir du moment où donc, ces bâtiments ont été détruits, quel a été le parcours quand on est chef d'entreprise? Quel est le premier réflexe? Je suppose déjà peut-être se tourner vers son assureur.
Tout à fait. Ouais. Je crois que c'est la première étape, donc faire sa déclaration. Bon, là, dans le cas présent, on n'était évidemment pas les seuls, puisque ces exactions ont touché beaucoup d'autres personnes. Donc, prendre contact avec son assurance, voir que contient le contrat, qu'est-ce qu'il exclut éventuellement, et puis entamer la procédure d'expertise, je pense. Peut-être que mes collègues autour de la table seront plus précis là-dessus, mais notamment, oui, les expertises. Là, on parle essentiellement bâtiments, hein, et non pas les biens accessoires comme des autos ou des choses qui ont pu être brûlées.
Donc ça, c'est important, l'expertise, parce que vous avez une responsabilité en tant que chef d'entreprise lorsqu'un bâtiment est détruit. On a notamment parlé au début de la déconstruction, de la mise en sécurité par rapport au cyclone. Peut-être, Franck-Olivier, peut-être sur cette question-là, il y a une responsabilité du chef d'entreprise de mettre son bâtiment en sécurité?
Alors effectivement, hein, il y a une responsabilité du propriétaire d'avoir un suraccident. Alors le premier suraccident, c'est éventuellement des personnes qui repénètrent dans le bâtiment et qui du coup se blessent. Donc là, il y a une responsabilité. Il y a aussi la responsabilité quand on arrive en période cyclonique, et on a eu énormément de demandes de sécurisation. Aujourd'hui, la plupart des chantiers qui ont été mis en place entre juillet et octobre ont été vraiment des sécurisations, des débuts d'expertise, des préchiffrages. Et après, il y a eu toute la phase jusqu'à décembre, janvier et encore certains février où là, vraiment, on était sur enlever tous les éléments qui sont susceptibles de s'envoler en cas de fort coup de vent.
Et c'est ce qui s'est passé chez vous, Laurent Jandot? On peut penser à Porsche ou à Renault avec d'abord peut-être retirer les vitres qui avaient été brisées, etc. et toutes les tôles et toutes ces choses qui pouvaient être dangereuses.
Oui, la mise en sécurité a été le premier des chantiers qui devait être mené, puisque au lendemain des incendies, évidemment, vous aviez un enchevêtrement de tout un tas de matériaux divers et variés, pour certains évidemment dangereux, rouillés, pointus, etc. Donc c'est un chantier qui a été mené conjointement avec l'assurance, bien sûr.
Et aujourd'hui, on en est où, puisque vos bâtiments, ils sont toujours debout? On a l'impression que ça traîne, ces dossiers-là.
Eh bien, pas forcément, puisqu'ils ont été, au fur et à mesure des expertises, nettoyés, éventuellement, pour certains, désamiantés. Je pense qu'aujourd'hui, on peut considérer qu'on a, pour ceux qui ont eu un dossier d'assurance bien avancé, on a ce qui reste et ce qui ne sera plus démonté aujourd'hui. D'accord. Et qui devrait faire partie de la reconstruction, justement. Si on prend le bâtiment Renault à Magenta, aujourd'hui, tel qu'il est, il n'y a plus rien à enlever.
D'accord, donc c'est un bâtiment dont la structure n'a pas été touchée et qui peut être reconstruit.
Qui reste aujourd'hui, c'est-à-dire la dalle et la structure porteuse, ces éléments, d'après les expertises, semblent convenir encore. Et donc la reconstruction, le jour où elle viendra, tournera autour de ce qui reste de ces bâtiments-là.
Quelles ont été les difficultés que vous avez rencontrées dans ces différentes étapes de déconstruction de vos bâtiments?
Le temps, surtout, je pense. Oui. Le temps avec les expertises, les contre-expertises. Les devis aussi, puisque, comme on le sait, les matériaux augmentent régulièrement. Donc, vous avez un bâtiment... Dans certains bâtiments, on avait des travaux qui étaient très récents, hein, des rénovations, et donc il faut rechiffrer ça avec probablement des augmentations à venir. Mais l'essentiel, c'est le temps, je trouve.
Alors justement, le temps, on sait que c'était une donnée importante pour les acteurs de la déconstruction et de la démolition. On sait que la FCBTP était montée au créneau en disant que s'il n'y avait pas ces chantiers qui se débloquaient, c'était la mort de toute la filière. C'est quelque chose que vous regrettez aussi, ce temps ?
Alors effectivement, aujourd'hui, on peut considérer qu'on est sur du 70-80% de démolition réalisée. Il en reste encore quelques-uns. Il y a encore des expertises aujourd'hui qui se font sur certains bâtiments. Alors je ne vais pas parler de quartiers qui ne sont pas accessibles, hein, mais aujourd'hui, on a encore fait des curages pour préparer des expertises sur Auteuil. Et ça va de soi que s'il n'y a pas de finalisation de tous ces dossiers en cours, parce qu'il y a des recours à droite à gauche, il faut penser qu'il y a le locataire, il y a le propriétaire, il y a les copropriétés, il y a l'expert d'assurance, il y a l'expert d'assuré. Chacun y met son petit bout, il y a des comparaisons de devis, comme disait Laurent, et derrière, ça traîne. Et c'est vrai que si on veut partir d'une relance économique dans le privé, si on ne peut pas aujourd'hui compter sur une reconstruction du public, il faut aller vraiment sur une reconstruction du privé. Avec quels enjeux, quels intérêts aujourd'hui, est-ce qu'on a intérêt pour tel ou tel entrepreneur à reconstruire son bâtiment, sachant qu'il y avait complètement des incertitudes. Et clairement, aujourd'hui, si on peut pousser à ce que le privé reconstruise, se mette à la tâche pour investir, pour redémarrer, ça serait une bonne chose.
On va en reparler au cours de cette émission. Peut-être au niveau du cluster à Cotred, il y a un certain nombre de normes, évidemment, dans la déconstruction. Il faut faire attention aux normes environnementales, notamment. On parlait de désamiantage avec Laurent Jandot à l'instant. Il y a un cadre légal qui a été mis en place spécifiquement, ou alors comment ça s'est passé au lendemain des émeutes ?
Alors, ça a été fait en collaboration avec la province sud. Dès qu'il y a eu tout ce qui était bâtiments brûlés et tout, Monsieur Nadir Boufnèche, président d'Acotred, a pris contact avec la 3DT et ils ont réussi à cadrer tout ce qui était démolition. Pour pas que ça parte dans tous les sens, pour pas que les déchets, alors surtout les déchets dangereux, pas inertes, mais dangereux, puissent partir dans la nature, parce que il y a le contenant, c'est-à-dire l'enveloppe des bâtiments, mais il y a aussi le contenu, et c'est là où il y a le plus de problèmes dans tout ce qui est supermarché, atelier et tout, les batteries, et c'est là où il y a les normes environnementales ont joué le jeu, et la CSP, EMC, et différents acteurs... Ça s'est relativement bien passé. La province a diligenté pas mal d'agents pour vérifier les chantiers, savoir si tout ce qui était bord de route suivi pouvait être tenu.
Et malgré cette crise, la violence, le nombre de bâtiments à démolir, c'était important d'être très vigilant sur ces points-là de l'environnement et de l'écologie.
Alors effectivement... Plus vous laissez des bâtiments se dégrader, plus vous laissez aussi les eaux de ruissellement. On parle d'eau d'extinction dans un premier temps, mais ensuite il y a toutes les eaux de ruissellement qui partent aux arroyos. Et clairement, pour l'environnement, c'est une mauvaise chose de laisser les bâtiments dans un état dégradé. Mais quelquefois, l'accès est compliqué. Donc une démolition doit se faire avec une dépollution avant. Mais si on ne peut pas rentrer dans le bâtiment pour faire la dépollution, il faut trouver des solutions. Ça prend du temps. Mais oui, effectivement, plus on va aller rapidement sur n'importe quelle intervention, que ce soit pompier en niveau d'incendie traditionnel ou en cas d'insurrection, il faut essayer de réagir au maximum le plus vite possible.
Vous étiez concerné, Laurent Jandot, aussi par ces difficultés environnementales. On peut penser dans le secteur de l'automobile aussi qu'il y a un certain nombre de produits peut-être qui sont stockés dans les bâtiments qui ont été détruits.
Pour le coup, c'était essentiellement des showrooms qui ont été détruits, donc pas trop de matériaux sensibles, mais ne serait-ce que dans une voiture, il y en a un certain nombre, donc finalement ça a pu toucher aussi les showrooms. Donc, pour répondre à votre question, ça a été une des premières préoccupations, et comme le disait Patrick, les pouvoirs publics ont rapidement pris la mesure de... qu'il fallait cadrer ça afin d'éviter tout débordement, que ce soit dans le traitement ou dans l'acheminement de ces déchets-là. Donc je pense avoir vu... J'ai vu des gens travailler de manière très professionnelle, masqués, avec combinaisons, etc. Donc je pense que ces choses-là ont vraiment, à juste titre, été prises à temps.
Il y a la question de l'amiante aussi, on l'évoquait assez rapidement, vous étiez concerné ?
Non, on n'était pas concerné, j'en ai beaucoup entendu parler par ailleurs, mais pour avoir fait des chantiers précédents, vous savez, l'automobile, on essaye de se mettre à jour assez souvent au niveau des chartes, des graphiques, de la présentation d'une concession. Donc on est souvent amené à mener des chantiers. Et donc, en ce qui nous concerne, le sujet amiante a été traité depuis longtemps déjà. Mais je sais qu'il persiste par ailleurs.
C'est une difficulté que vous rencontrez. Est-ce qu'on peut estimer à peu près le pourcentage de bâtiments où il y avait cette problématique-là ?
Alors, c'est une problématique qu'on, dans le métier de désamianteur, qu'on côtoie tous les jours. Hein. Aujourd'hui, faire un diagnostic amiante, chaque fois qu'on fait les travaux de démolition, on est censé le faire pour la protection de nos salariés. Je vais revenir juste sur un point que vous avez abordé. C'est une bonne chose parce qu'aujourd'hui, que ce soit la filière des métaux, la filière des déchets inertes ou la filière des déchets industriels banals ou déchets incendiés, ils ont systématisé la demande du diagnostic amiante. Donc, on peut dire aujourd'hui que pour tous les travaux qui seront dans l'avenir, le diagnostic amiante sera entre guillemets obligatoire parce qu'on a pris conscience de la problématique. Aujourd'hui, on a vu des chantiers où il a fallu quand même partager le travail. Hein. La province sud, la Cotrade et la FCBTP ont agréé des entreprises, on ne va pas dire le mot agréé, mais ont donné une liste d'entreprises recommandées pour faire les déconstructions. Et
vous aviez qui respectent une charte finalement ?
Exactement, qui respecte une charte, aussi bien sur la gestion de déchets, sur la gestion du code du code du travail avec la protection des salariés, et en même temps de la santé publique. Donc vraiment, tout le monde a joué le jeu. Les entreprises de cette liste ont vraiment été très suiveuses dans les procédures. On n'avait pas le choix, mais à un moment donné, si on veut aussi donner la garantie au client derrière d'avoir une traçabilité de ses déchets, parce qu'il faut quand même rappeler que le client final, donc le maître d'ouvrage, est le responsable de ses déchets. Ça veut dire que s'il y a des déchets qui sont jetés dans la nature, c'est lui qui va être responsable pénalement. Et ça, l'importance de cette délibération avec cet agrément, qui n'est pas un agrément, je le répète, c'est hyper important d'avoir, on va dire, un suivi post-chantier du suivi des déchets.
Et ça, c'est quelque chose qui rallonge considérablement la durée du chantier, ou pas, le fait d'avoir de l'amiante son chantier. Est-ce que c'est une difficulté supplémentaire ou pas ? Parce qu'on peut penser à Kedmin, il me semble qu'il y a à peu près 3 mois sur ce chantier, d'après nos informations, sur juste la question du désamiantage avant la déconstruction.
En fait, l'amiante n'était pas forcément présent dans tous les bâtiments. On a cette chance, c'est que je pense que, Patrick pourra peut-être me le dire, on est sur 10-15% de bâtiments avec de l'amiante. Le délai est restreint à un plan de retrait. Un plan de retrait, c'est une déclaration auprès de la DTE, du SMIT et de la CAFAT pour dire on va faire le chantier, comment on le fait, où on le fait et dans quelles conditions on le fait, avec qui. Ce délai d'un mois, on ne peut pas réduire ce délai, sauf si on a des éléments qui sont vraiment d'une problématique d'urgence. Et ensuite, on a des chantiers qui peuvent durer d'une semaine jusqu'à, effectivement, comme Kenuine, 3 à 6 mois, où là, on a vraiment des matériaux qui sont compliqués ou difficiles d'accès. Et dans ce cas-là, on fait appel à des entreprises qui démolissent, d'autres qui désamiantent. Il y en a certaines qui dépolluent aussi. Quand on avait des supermarchés avec des denrées alimentaires, on était face à des rats, donc il fallait absolument enlever toutes ces marchandises qui étaient en train de rentrer en putréfaction. Donc oui, ça rallonge les délais, mais en fait pas plus qu'avant, sauf que c'est la masse globale de chantiers qu'il y a eu qui fait qu'il fallait vraiment traiter les plus urgents.
Alors si on parle de ces déchets, ensuite, quelle est la filière pour la prise en charge de ces déchets ? Les déchets inertes, je suppose qu'ils restent sur le territoire, mais il y a un certain nombre de déchets qui sont traités ailleurs ?
Alors, pour ce qui est du déchet inerte, style béton, ça reste sur le territoire. Ce qui est matériaux ferreux, vend grande partie chez EMC, traité pour l'export. Une partie au niveau non ferreux, style aluminium, est traitée sur place. Ils ont des fours pour l'inerter. Pour ce qui est de l'amiante, la seule filière aujourd'hui possible, c'était l'export en Nouvelle-Zélande. Mais des discussions avec la province sud s'engagent et il est possible qu'il y ait dans quelques temps un casier dédié à cet effet à la CSP. Je pense quelque chose de ponctuel, parce qu'il faut savoir que l'amiante, c'est pas quelque chose de grandiose en Nouvelle-Calédonie, et vous en avez au niveau environnemental, donc il y en a partout, quoi, sur les carrières et tout, il y en a partout. Par contre, ce que l'on peut voir, c'est que ça fait 20 ans que je travaille dans l'amiante aussi. Ça fait 20 ans que l'on demande d'avoir des diagnostics techniques amiante sur tous les bâtiments en Nouvelle-Calédonie avant 2008. Ça n'a pas été fait. Ça a pris beaucoup de temps au niveau des gouvernements successifs et tout. Pour vous dire, 20 ans, c'est énorme. Aujourd'hui, on ne les avait pas eus. Quand vous avez tous ces bâtiments qui ont brûlé, on ne savait pas s'il y avait de l'amiante ou pas d'amiante dedans. Et ça a retardé le processus de démolition parce qu'il a fallu chercher l'amiante. Et malgré tout, très peu de bâtiments brûlés ont été désamiantés parce que beaucoup de diagnostiqueurs n'ont pas trouvé d'amiante dans les bâtiments, dans les décombres, quoi. Donc... bonne chose, pas bonne chose, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est un constat que l'on peut faire où il y avait beaucoup de diagnostics négatifs lors des émeutes, à savoir même EMC et la CSP, ZUMAC, sur les déchets inertes, demandent de diagnostics avant l'enfouissement de leurs déchets. Les diagnostics sont négatifs, quoi.
Ce que vous semblez dire, c'est que finalement, cette crise a poussé les pouvoirs publics à mettre un cadre légal sur quelque chose qui n'avait pas forcément lieu auparavant.
Alors, c'est pas accélérer forcément les pouvoirs publics, hein, c'est le privé, je pense, qui était aussi à la base de cette problématique ou de ces enjeux de santé. C'est qu'on a retrouvé dans certains exutoires de l'amiante dans l'air. Donc il a fallu quand même faire de la prévention. Et pour pouvoir faire de la prévention sur un site ICPE, installation classée pour l'environnement, bah, il faut faire des démarches en amont. Hein. C'est comme un bâtiment. Le jour où on veut reconstruire sur une dalle qui a brûlé, bah, il faut faire des analyses de la dalle pour savoir si elle est encore en bon état. Bah, on fait des analyses sur les bâtiments pour voir si les déchets ne vont pas être nocifs, pas dans le sol, mais avec une lixivation ou alors des écoulements d'eau ou alors tout simplement le fait de passer un bulle dessus et de gratter avec une pelle ne fait pas des émanations de fibres. Et aujourd'hui, quand on voit l'enfouissement qui est fait sur ces déchets incendiés à la CSP à Gadji, il y a des contrôles sur 5 ans et 10 ans qui sont ajoutés à la procédure normale. Et quand on propose, et on espère que ça va se faire, hein, c'est quand on propose d'enfouir les déchets amiantés en Calédonie plutôt que de les exporter, qui est une hérésie environnementale totale, on risque de gagner un gain de 6 fois moins cher sur la gestion de déchets amiantes. Donc aujourd'hui, le fait d'enfouir des déchets amiantés qui sont emballés 3 fois et d'enfouir des cendres incendiées qui ne sont pas emballées mais qui sont recouvertes de terre, bah, clairement, il y a moins de risques sur l'amiante volatile même l'amiante environnementale à l'enfouir en Calédonie, que certains produits qui peuvent être jetés dans les déchets d'ordures ménagères ou autres. Donc c'est clairement une solution qui est, si elle peut être locale, c'est mieux, si elle peut être cadrée, c'est que mieux, parce que ça préserve vraiment tout le monde.
Alors justement, reconstruire, on en parlait tout à l'heure, on l'évoquait, reconstruire visiblement autrement. Laurent Jandot, vous nous disiez que vous étiez à la page et que vous remettiez vos bâtiments à jour régulièrement pour ne pas avoir ces problèmes-là. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez à la reconstruction et si oui, sous quelle forme ?
Bien sûr, on y pense. Je pense qu'on a tous, on aspire tous à revenir à une situation avant événement et ça nous rassurerait de revoir nos bâtiments en bon état. Toutefois, reconstruire, il faut un marché pour ça et j'ai eu l'occasion d'exprimer ma position là-dessus. Depuis un an, en ce qui concerne l'automobile, le marché n'est absolument pas revenu. On est toujours à moins 50, moins 60% de ce qu'on a pu connaître avant les émeutes. Donc la volonté de reconstruire, elle est là tous les jours, puisque on passe devant ces bâtiments, ils ne sont pas très agréables à voir, et on aimerait bien les voir autrement. Mais il va falloir un marché pour reconstruire et peut-être, on en parlait un petit peu tout à l'heure, au-delà du marché, des assurances, puisque bon, nous savons tous aujourd'hui que la clause émeute a été retirée de la quasi-totalité des contrats. Pour autant, quand vous construisez un bâtiment, c'est pour 20 ou 30 ans. Moi, j'aimerais qu'on me rassure sur les émeutes dans les années à venir. Aujourd'hui, c'est une chose, demain, c'en est une autre. Donc, la volonté est là, oui. Je pense qu'on a tous envie de reconstruire, mais pour ça, il nous faut un marché et de la sécurité.
Vous parliez de ces bâtiments qui sont un peu déconstruits, qui sont en attente de reconstruction. Vous avez donné votre sentiment. Vos salariés, par exemple, quand ils passent devant, qu'est-ce qu'ils vous disent de travailler tous les jours à côté de ces bâtiments qui ont été incendiés ?
Bah, ils aimeraient y retourner, évidemment, puisqu'ils ont été, pour ceux qui n'ont pas fait l'objet du plan social que l'on a dû mener, ils ont évidemment hâte de retourner dans leur structure d'origine, puisqu'aujourd'hui, ils ont été, pour l'essentiel, relocalisés, mais dans des structures non pérennes. Hein. On parle d'Algeco, on se marche un petit peu dessus à certains endroits, puisque le site de Renault était quand même extrêmement vaste. Il y avait beaucoup de bureaux qui ont été détruits. On ne retrouve pas autant de place du jour au lendemain. Donc on a replacé les gens, on a fait en sorte de pouvoir continuer de travailler. Mais évidemment, ça pose d'autres problèmes au niveau des collaborateurs, puisque je vous dis, ils sont parfois ils sont moins à l'aise qu'avant.
Donc aujourd'hui, vous attendez un marché. Quel est le message que vous passez ? Vous avez notamment reçu François-Xavier Bellamy lors de sa visite. Vous recevez un certain nombre de politiques. Vous êtes aussi peut-être un exemple, malheureusement, dans cette crise. En tout cas, vous êtes un symbole de la crise. Quel message vous faites passer pour que ça reprenne ?
Je ne crois pas que ce soit entre mes mains, malheureusement. Il y a des gens qui sont là pour ça. Je pense aux hommes et aux femmes politiques, notamment. Je cherche un message d'espoir à passer pour que cette période qu'on traverse et qui commence à être un petit peu longue, le temps économique n'est pas le temps politique. Je pense que tous les gens qui sont autour de la table seront d'accord là-dessus. Je ne sais pas quoi vous dire.
Il faudrait être prêt en cas de montée en puissance du marché. Il faudra réagir très vite. Il y a une inertie quand même s'il faut reconstruire ces bâtiments. Comment vous envisagez la chose ?
On est tous prêts aujourd'hui à construire. Comme je vous disais, nous dans le groupe, on est toujours en chantier en fait. Hein, quand ce n'est pas pour une marque, c'est pour une autre. Quand c'est pas pour ça, c'est parce qu'on trouve le bâtiment un peu vieillissant. Donc on a l'habitude et on sait mener ce genre de chantier. Donc je pense qu'on a juste hâte de les démarrer pour de bonnes raisons.
Du côté des acteurs du BTP, je suppose aussi que là, il y a une réelle attente de voir les chantiers redémarrer de reconstruction ce coup-ci.
Oui, effectivement, quand on voit ces deux dernières semaines, il y a des appels d'offres qui sont sortis avec des visites de chantiers en réhabilitation, des chantiers publics et des chantiers privés. Quand vous voyez 60 entreprises qui viennent pour répondre à un appel d'offres, c'est que tout le monde a faim. Et aujourd'hui, bah, il faut alimenter toutes ces entreprises qui ont des salariés qui sont sur le point d'être licenciés. Hein. Moi, je prends la part de DNC où j'ai eu la chance pendant 3 ans d'avoir 12 salariés. Et là, je commence à diminuer tranquillement mes CDD, les arrêter. Parce qu'effectivement, on est dans une phase où, malgré le boom qu'il y a eu, avec le partage des travaux qu'il y a eu pour tout le monde, il y a même des activités de démolition qui sont en train de diminuer, de s'arrêter. Donc l'intérêt, c'est de se...
Ça semble paradoxal ?
Alors c'est paradoxal et en même temps, ça a permis pendant quelques mois de partager le travail, je le répète. Hein. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir, avant un chantier, que j'ai, entre guillemets, sous-traité à une boîte de gros œufs parce qu'ils n'avaient pas de boulot. Et ils ont fait de la démolition parce qu'ils étaient équipés et qu'ils ont respecté les règles. Mais clairement, aujourd'hui, tout le monde se meurt. Et on parle de commerce, mais s'il n'y a plus d'activité, qu'on n'a plus de salaire, enfin, où nos salariés n'ont plus de salaire, ils vont consommer quoi ? Rien. Ça veut dire que derrière, les commerces vont fermer et petit à petit, on va se retrouver complètement à l'arrêt. Et je pense que voilà, il faut, au-delà des assurances, au-delà de l'aspect public, il y a tout le privé qu'il faut aussi redynamiser. Il faut que les gens reprennent confiance, mais pour avoir confiance, il faut avoir des signes annonciateurs, des choses, que ça soit dans un sens ou dans l'autre. Hein, mais aujourd'hui, il faut trouver la solution, il faut avancer.
Vous le voyez comment, le marché de la déconstruction après cette crise, une fois que tous les bâtiments touchés par ces violences insurrectionnelles seront démolis, on reviendra à une situation normale, vous pensez, de ce secteur ? Ou alors est-ce qu'il y a une structuration possible pour l'améliorer encore ?
Je ne pense pas. Je suis désolé. Ouais. Là, je vais être très négatif. Aujourd'hui...
Je voulais finir sur une bonne note et puis j'ai posé la mauvaise question, visiblement.
Non, en fait, c'est toute une question de taille. Aujourd'hui, une entreprise qui vient d'investir dans, 150 millions d'engins et peut-être 200 millions de docks et de matériel ou matériel industriel, s'il n'y a pas de redémarrage, elle va partir en sauvegarde, elle va partir en redressement ou en liquidation. Et aujourd'hui, on voit tous les jours les annonces légales où il y a de plus en plus de sociétés qui sont en train de tirer la sonnette d'alarme auprès du tribunal et dire on est à l'asphyxie, il faut trouver une solution, mais il n'y a pas de solution. Les réhabilitations vont créer de l'emploi. On va avoir des petites entreprises sans engins, sans gros investissements qui vont sortir. Il y a des patentés qui vont certainement, des créations de patentes qui vont émerger. Mais est-ce que c'est ça aujourd'hui le futur du marché du BTP? Je ne sais pas, mais en tout cas, le BTP aujourd'hui, c'est plus le poumon de la Calédonie. Les mines, c'est plus le poumon de la Calédonie. Qu'est-ce que va être le poumon de la Calédonie demain? Peut-être on va trouver une solution où sans travailler, on va gagner de l'argent.
Ça, ce serait positif pour terminer l'émission, mais malheureusement, c'est un petit peu utopique. Merci beaucoup en tout cas à tous les trois d'avoir été avec nous ce midi pour nous parler de ce sujet important en ce moment dans l'actualité. On en parle régulièrement. Il est midi passé de 28 minutes. On va marquer une courte pause. Ensuite, c'est le Café Gourmand. Cette émission sera disponible évidemment, et je le rappelle, en podcast sur notre site internet le www.rrb.nc. Et à 13h, ce sera le Flash, le dernier point d'actu de ce 11-13.
Le magazine citoyen avec la province Sud, une province citoyenne.
La province Sud, agir pour l'avenir.